Les cours du Collège de France, Pascal Sonnella, chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt.
Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Le cours de cette semaine, après avoir vu la semaine dernière les ordinateurs quantiques à base de lumière et particulièrement à base de photons, cette semaine nous allons aborder les ordinateurs quantiques que j'appelle processeurs quantiques, parce qu'il s'agit vraiment seulement de la partie qui fait le calcul dans un ordinateur, donc on appelle ça un processeur, à base d'atomes. Nous avons en fait deux grandes catégories de systèmes. Les systèmes qui utilisent des ions piégés, donc des ions, c'est des atomes auxquels on a retiré un électron, et qui sont donc des particules chargées. Et nous avons des systèmes qui utilisent des atomes neutres, donc vraiment l'atome en entier qui ne porte pas de charge. Et les deux systèmes, en fait, ont donné lieu à un grand nombre de créations de sociétés qui développent le calcul quantique avec ces systèmes. À gauche, vous avez donc du côté des ions piégés, la société par exemple Alpine Quantum Technologies, qui est basée à Innsbruck. Vous avez Quantinuum et Oxford Ionics et IonQ, qui sont, alors IonQ plus aux US, et puis les autres qui sont délocalisés entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette liste est non exhaustive. Je précise, bien sûr, il y a probablement peut-être des sociétés autres que je n'ai pas mentionnées ici, qui sont peut-être moins en visibilité. De l'autre côté, vous avez des sociétés qui utilisent donc des atomes neutres. Nous avons en particulier en France Pascal, la société cofondée par notre invité du jour, Antoine Brouwez, et des sociétés comme Quera, Atom Computing et Inflexion, notamment certaines aux États-Unis, ou Planck QC, qui est également en Europe à Munich. Donc vous voyez déjà deux types de systèmes. Et puis, dans ces deux types de systèmes, nous avons en réalité deux façons de faire du calcul. Alors, je n'ai pas mentionné cela la semaine dernière. J'ai essentiellement parlé la semaine dernière de calcul quantique à base de portes digitales, en tout cas de manipulation de 0 et de 1. Mais la notion de faire du calcul analogue existe dans de nombreux systèmes quantiques, et en particulier avec des atomes neutres. Donc, nous avons deux grandes catégories, un calcul quantique digital, qui donc manipule des 0 et des 1 pour faire des portes logiques, etc. Et un calcul quantique qu'on dit analogique, qu'on appelle aussi parfois de la simulation quantique, qui va en fait utiliser les mêmes systèmes physiques, c'est-à-dire des atomes ou des ions, les mettre dans des configurations pour simuler des systèmes analogues. Par exemple, ici, j'ai pris une publication qui est étudiée avec des atomes que nous allons voir aujourd'hui, des systèmes antiferromagnétiques. Et il s'agit là de simuler la physique de matériaux qui existent ou qui n'existent pas, mais de faire une étude en utilisant ces plateformes de calcul de façon analogique. Avant qu'on rentre dans le détail de tout le fonctionnement de ces ordinateurs dont je vais vous présenter les grandes lignes aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vais essayer de vous donner une idée un petit peu des atouts, des défis que nous avons dans chacune des plateformes. Donc, côté ordinateur quantique à base d'atomes, ou d'ions en réalité, les atouts, c'est que cette communauté bénéficie de tout le travail qui a été fait dans les décennies précédentes sur le développement des horloges atomiques, qui utilisent des transitions atomiques dans des différents niveaux dans les atomes pour mesurer le temps. Toutes ces technologies ont servi de soutien, de support au développement de ces ordinateurs quantiques, de par la connaissance des niveaux d'énergie dans les systèmes, mais aussi tout un tas de technologies qui ont été développées pour le développement des horloges. Alors, nous manipulons aujourd'hui des objets naturels, entre guillemets, ce sont vraiment des atomes et des ions, pas comme il y a trois semaines, nous avions parlé d'atomes artificiels pour manipuler la lumière. Ici, on parle vraiment de l'atome tel qu'on le trouve à l'état de nature, et qui ont donc, a priori, qui partent identiques. Vous verrez, ces objets sont piégés dans le vide, et donc sont, en première approximation, très peu sensibles à la décohérence, donc le couplage à l'environnement dont nous avions parlé sur le troisième cours sur la décohérence. Et puis, même si la cryogénie est utilisée dans certaines conditions pour avoir un vide ultra poussé, ce sont des plateformes où le niveau de cryogénie pour refroidir le système est assez limité. Les défis, alors comme toujours, les avantages d'un côté sont toujours couplés à des défis de l'autre. Les défis viennent de ce que nous manipulons ici, des objets naturels qui, vous allez le voir, sont piégés dans le vide avec des lasers, etc. la miniaturisation de tout ça n'est rien d'évidente. C'est par opposition aux qubits supraconducteurs ou les qubits de spin que nous avions vus les semaines précédentes, qui sont, eux, basés sur, de certaine façon, la technologie de la microélectronique. Donc là, évidemment, plus de points d'interrogation. Et de la même façon, en fait, ça va ensemble, comment passer à des millions de qubits dans ces conditions. Et puis, j'ai mis encore un point à clarifier ici, qui est la fréquence d'horloge. Donc, nous avions vu dans les critères les figures de mérite d'un ordinateur quantique, l'horloge, la vitesse à laquelle l'ordinateur fonctionne est très importante. Et là, nous allons voir qu'en fait, il y a des situations où c'est des horloges très basses, donc pas rapides, qui posent des problèmes, mais potentiellement peut-être des moyens de surpasser cette limitation. Pour structurer le cours, je repars, comme la dernière fois, des critères de DiVincenzo pour le calcul quantique. Donc, un système évolutif de qubits bien caractérisé. 2, une capacité de mesurer ces qubits. 3, de les initialiser. 4, très faible décohérence. Et finalement, un jeu de portes logiques universelles. Alors, nous allons... le programme de l'après-midi est le suivant. Comme nous avions passé une séance à expliquer comment on générait des photons, alors il s'agissait de générer les particules. Ici, les atomes existent, mais il va falloir trouver une façon de les piéger. Donc, c'est là que c'est le premier critère de DiVincenzo, avoir un système où on est capable de piéger un grand nombre d'atomes et de les contrôler. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait ça de manière très qualitative, avec les pièges à la fois pour les atomes neutres et pour les particules chargées. Ensuite, nous allons regarder comment on encode l'information dans ces systèmes, quelles sont les transitions atomiques que l'on choisit pour encoder l'information et comment on les contrôle. Là, je vais faire une parenthèse qui me paraît importante à introduire dans ce cours où je couvre des sujets larges, mais où j'essaye de dégager des tendances très importantes qui sont applicables à d'autres systèmes. Je vais introduire la notion de transition horloge, qui sont des transitions qu'on choisit par leur faible sensibilité au champ magnétique, qui est bien sûr très importante quand on s'intéresse à avoir peu de décohérence. Ensuite, dans une troisième partie, j'expliquerai comment on fait des portes logiques entre deux atomes ou deux ions. Et j'expliquerai en particulier en détail une porte qui a vraiment lancé le domaine, qui s'appelle la porte Sirac-Zoller. On prendra un exemple bien précis. Et enfin, je terminerai avec des exemples récents, des réalisations pour illustrer tout cela. Et bien sûr, dans la deuxième partie du cours, avec le séminaire d'Antoine Brouwez qui nous rejoindra tout à l'heure, vous aurez une très belle démonstration de tout ce qu'il est possible de faire avec une des plateformes qui sont les atomes neutres. Donc commençons par discuter de comment piéger ces particules élémentaires, que sont des atomes et des ions, pour ensuite pouvoir les utiliser pour encoder l'information. C'est vraiment le point de départ. Et je vous montre ici deux magnifiques images qui vous permettent de voir en haut une chaîne d'ions, des ions piégés de manière linéaire sur une longue chaîne. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Et vous les voyez par la lumière qu'ils émettent. On les excite et vous voyez l'émission de ces atomes. Donc vous voyez une petite tache à chaque endroit où il y a un ion. Et en bas, vous voyez cette fois-ci un réseau carré à deux dimensions d'atomes de neutres qui sont piégés également. Les méthodes qui permettent de piéger sont très différentes, suivant qu'on a une particule chargée ou pas. Et donc, on va traiter de deux types de pièges. Les pièges magnéto-optiques, en plus avec des pièces optiques, à gauche, où vous allez voir que nous allons utiliser vraiment des faisceaux laser pour ralentir les atomes et puis finalement les piéger. Et puis, on va rajouter un champ magnétique pour rendre tout cela en fait vraiment contrôlable. Ça va être pour les atomes neutres. Et puis, à droite, vous avez un des pièges qui permettent de piéger les ions, qui sont, comme ce sont des particules chargées, qui vont pouvoir utiliser des champs électriques, des potentiels électrostatiques pour piéger les particules. Alors, commençons par piéger des particules neutres. Et pour cela, je vais introduire un phénomène qui s'appelle le refroidissement Doppler, qui est le suivant. Prenons un système à deux niveaux, avec un état fondamental G et un état excité E, sur lequel j'envoie un laser, et pour l'instant, je le considère à résonance avec la transition. Que se passe-t-il ? Bien, bon, laser va interagir avec l'atome et va emmener l'atome dans l'état excité avec une certaine probabilité. Cette interaction entre le laser et l'atome se fait à conservation d'énergie, avec conservation de l'énergie et conservation de l'impulsion. Donc si l'atome était dans mon premier cas que je considère ici au repos, eh bien en fait le photon, le laser, en interagissant avec l'atome, va lui donner une impulsion qui va être H bar K. Et puis, l'atome dans l'état excité va avoir une probabilité d'émettre, par émission spontanée, de revenir dans l'état fondamental en émettant un photon. Mais ce photon va pouvoir être émis dans toutes les directions de l'espace, comme nous l'avons discuté pour les sources de photons uniques. Et donc, finalement, quand on regarde la différence, la variation de quantité de mouvement de mon atome, à l'absorption, il a acquis une impulsion H bar K, et à l'émission, il a perdu une impulsion H bar K prime. Mais quand je fais la valeur moyenne sur un grand nombre d'événements, K ici, c'est fixé par le laser, c'est toujours le même, alors que le K prime est aléatoire. Et donc, en valeur moyenne, sur un grand nombre de réalisations, j'excite souvent mon atome, et puis il émet un photon, et bien en fait, c'est seulement le premier terme qui reste, celui-là, donne 0 en moyenne. Donc je suis capable en fait de mettre en mouvement par exemple mon atome en l'excitant avec un laser. Et si je calcule la force nette que j'exerce sur l'atome, eh bien elle va être proportionnelle à cette quantité de mouvement H bar K multipliée par l'absorption, la probabilité pour l'atome d'absorber par unité de temps. Et donc ça c'est proportionnel à la probabilité de l'emmener dans l'état excité fois le temps de vie radiatif, le taux d'émission radiatif. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin et comprendre comment cela fonctionne, il faut en fait qu'on aille un petit peu regarder ce qu'il y a dans cette... Ah, excusez-moi, je vais prendre le pointeur laser. Voilà. On va regarder que vaut cette probabilité d'être dans l'état excité. Et pour ça, je reviens sur ce que nous avons décrit en détail au cours numéro 3, qui nous ont permis de décrire les équations de bloc optique. Donc, il s'agit de décrire l'interaction entre un système à deux niveaux avec un laser. L'hamiltonien de couplage, c'est moins le produit scalaire entre le dipôle de l'atome et le champ électrique. Et puis, on a la fréquence du laser, qui est oméga, la fréquence de la transition de l'atome, qui est oméga 0, et puis l'amplitude du champ électrique qu'on va appliquer. Et nous avions montré, terme à terme, les équations de bloc optique. En bleu, je vous rappelle, c'était l'évolution naturelle du système. En rouge, c'était l'évolution par perte, donc le temps de vie justement radiatif qui nous ramène vers l'état du bas. Et puis en vert, c'était ce qui vient quand on applique un champ laser d'intensité justement proportionnelle à oméga 1 au carré. Et puis on avait rajouté les termes de déphasage pur. Alors regardons ce que vaut le ρ EE, c'est ce terme-là qui m'intéresse, dans un régime permanent où j'excite tout le temps mon système. Donc régime permanent, alors d'abord je vais me mettre dans le cas où il n'y a pas de déphasage pur pour simplifier la discussion. Et puis je vais me mettre en régime stationnaire, c'est-à-dire que j'ai mon laser qui est tout le temps allumé. Et donc je vais regarder la population stationnaire donc qui n'évolue plus dans le temps. Donc la première équation égale à 0 ici, ça va me donner une équation qui va relier ρ EE, c'est-à-dire la population dans l'état excité, à ρGE moins ρEG, c'est-à-dire la différence des cohérences. Et puis, je vais avoir la même chose ici sur la dernière équation qui va me relier cette fois-ci ρEG à la différence des populations ρGG moins ρEE. Et puis, on n'oublie pas que dans la matrice densité, la trace vaut 1. Donc, on sait aussi qu'on a les populations en état excité plus les populations dans l'état fondamental qui est égal à 1. Quand on résout simplement ce jeu d'équations, on peut donner une formule pour ρEE qui est la suivante, la probabilité d'amener le système dans l'état excité, ça va être du oméga 1 carré sur 4 sur oméga 1 carré sur 2 plus gamma carré sur 4, et puis plus un terme delta qui est la différence entre la fréquence du laser et la fréquence de la transition optique. Donc si je trace la force nette exercée sur l'atome, qui est simplement proportionnelle à ce terme ρEE ici, et bien c'est quelque chose, c'est une lorentzienne en fait, ça c'est simplement une lorentzienne, de largeur centrée sur la fréquence de l'atome et de largeur qui est en gros déterminée par le racine carrée de gamma carré, c'est-à-dire le taux d'émission spontanée au carré, plus un terme qui est proportionnel ici à l'intensité du laser. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que plus je suis proche de la résonance ici, plus delta est petit, plus j'exerce une force importante sur l'atome. Et plus je m'en éloigne, moins la force que j'exerce sur l'atome est importante. Alors maintenant, considérons la situation qui va plutôt nous intéresser. On va avoir un système, on va prendre une source d'atomes qui va nous donner un petit nuage d'atomes qui auront une énergie cinétique importante, qu'il va falloir refroidir avec un certain nombre de techniques. Je ne les mentionne pas toutes. Et donc, on va à un moment s'intéresser à refroidir notre système avec un faisceau laser par refroidissement Doppler. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'envoie mon laser vers un atome qui, cette fois, se déplace. Alors, imaginons que l'atome se déplace en position inverse au laser. Eh bien, et je mets mon laser, au lieu de le mettre exactement à la résonance de la transition de mon atome, je vais le décaler vers le rouge, une fréquence plus basse. Pourquoi? Parce que quand mon atome en fait, se déplace vers le laser, c'est comme quand vous êtes sur la plage et que vous allez vers les vagues qui viennent vers vous, la fréquence à laquelle les vagues vont venir vers vous va être augmentée. Et donc la fréquence vue par l'atome du laser va être augmentée. On va passer de la fréquence du laser intrinsèque à cette fréquence de laser moins K scalaire V. Et quand K et V sont dans des directions différentes, ça veut dire que la fréquence effective de mon laser vue par l'atome est, se rapproche de la résonance. Et donc j'augmente l'interaction entre mon laser et l'atome. Et donc en fait, on va freiner. En fait, mon laser va donner une quantité de mouvement H bar K et donc freiner l'atome qui vient dans l'autre direction. Si à l'inverse, mon atome va dans la mauvaise direction, est déjà en train de s'éloigner de mon laser, eh bien, c'est comme si, cette fois-ci, c'est la situation inverse, plus vous éloignez de la plage, plus les vagues vous arrivent à une fréquence faible. Eh bien, ici, l'atome, la fréquence du laser vue par l'atome, toujours avec la même formule, cette fois-ci, se décale vers le rouge. Et donc, on s'éloigne encore plus de la transition de résonance, qui fait que la force exercée, en fait, baisse. Et donc, le résultat net, c'est que vous avez un système qui, en fait, avec un faisceau laser qui vient comme ça, vous avez freiné les atomes qui viennent dans cette direction-là. Donc, si vous en mettez dans différentes directions, donc 6 directions, vous allez pouvoir, en fait, ralentir les atomes dans les 6 directions de l'espace. Alors, d'abord, on parle de freinage ici, hein, on ne parle pas de piégeage pour l'instant. Et puis, je veux souligner qu'il y a une limite à ce piégeage, qui vient du fait que je change l'impulsion d'une valeur h bar k, mais si je regarde la variation de l'énergie cinétique de mon système, eh bien j'arrive à une énergie cinétique qui est p plus h bar k à l'arrivée moins 1 sur 2m hein, moins l'énergie cinétique que j'avais au début pour mon atome. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste quelque chose qui est en p 2p dp plus delta P au carré. Et donc, en fait, ici, vous voyez que ce terme-là, effectivement, vous allez freiner, donc P va finir par tendre vers 0, mais le delta P au carré, c'est en H bar K carré. Et donc ça, il y a un moment où simplement vous donnez de l'énergie à votre système en le ralentissant, et cette énergie va donner lieu à un effet de chauffage qui fait que vous n'allez pas pouvoir agentir, arriver à une énergie cinétique nulle, et on parle de chauffage. Et donc finalement, il y a une limite fondamentale avec ces techniques de refroidissement très simples qui vous dit que la limite, la température atteinte par votre système va être limitée par cette formule qui est limitée par le taux d'émission spontanée de votre système qui vous amène pour les atomes de rubidium, par exemple, aux alentours de la centaine de microkelvin. Alors il y a des techniques plus avancées pour contourner cette limite, mais c'est pour bien planter le décor sur le fait que cette technique de refroidissement marche, mais ne réduit pas l'énergie globale du système. En fait, on chauffe en même temps qu'on ralentit. Alors, pour faire ça, il faut donc allumer un laser, désaccorder de la transition, puis exciter suffisamment longtemps pour que l'atome perde de l'impulsion progressivement. Et pour ça, il faut en fait un certain nombre de conditions sur les transitions optiques, en particulier que vous puissiez exciter votre atome et qu'il revienne tout le temps dans le même état pour que vous puissiez toujours le réexciter, etc. Si quand vous l'emmenez quelque part et qu'il émet, il se retrouve sur un autre état final, vous êtes coincé. Et donc il y a tout un tas de techniques assez subtiles pour s'assurer qu'on a ce qu'on appelle une transition fermée qui permet de faire cela. Ce n'est pas le cas de tous les atomes. Et puis par ailleurs, on a parlé simplement de freinage, on n'a pas parlé de piégeage. Et donc pour vraiment piéger les atomes, on va en fait combiner cette interaction avec le champ laser qui permet de freiner, avec un piège magnétique très spécial, un piège quadrupolaire, dans lequel on va avoir une variation, le champ magnétique va être nul au centre, et on va avoir un champ magnétique qui varie quand on s'éloigne du centre. Pourquoi? Parce que les électrons dans les atomes sont sensibles au champ magnétique, et donc en fait il va y avoir, et le champ magnétique va déplacer les niveaux d'énergie des atomes, comme nous avons vu au premier cours, des électrons dans l'atome, comme nous avons vu au premier cours par l'effet Zeeman. Et donc, en fait, la fréquence de votre laser par rapport à la transition de l'atome va dépendre de l'endroit où l'atome est dans le piège. Et en faisant cela, alors sans expliquer en détail, on peut montrer qu'au-delà de la force de friction que je viens d'expliquer, qui est en fait le refroidissement Doppler, on va avoir en fait une force de rappel, parce que vous avez en fait maintenant un lien entre le niveau d'énergie, l'effet de votre effet Doppler et la position de l'atome dans le piège, qui finalement donne une force de rappel qui ramène votre système au centre. Cette configuration de champ magnétique permet également de jouer avec les effets Zeeman, de jouer avec les règles de transition optique et de s'affranchir du besoin d'avoir des transitions fermées, par exemple dans certains atomes qui n'en auraient pas. Donc première façon de piéger, donc on va mettre un piège magnéto-optique, donc 6 faisceaux laser comme vous les voyez là, un champ magnétique quadrupolaire et on va pouvoir piéger nos atomes. On ne s'arrête pas là, les chercheurs ont développé depuis des années des techniques beaucoup plus précises que cela pour piéger leurs atomes avec ce qu'on appelle des pinces optiques, des pièges dipolaires. Alors j'ai dessiné de manière un peu maladroite ici ce qu'il se passe quand vous focalisez un faisceau laser. Vous avez un faisceau laser avec une lentille, vous le focalisez. Votre faisceau laser a une forme gaussienne au point de focalisation, ce qui fait que l'intensité du champ électrique au point de focalisation donc, a une forme ici exprimée par une gaussienne. Quand votre atome est là, eh bien, il a une réponse au champ électrique qu'on appelle la polarisabilité, qui dit que le dipôle de votre atome est en fait proportionnel au champ électrique. Et pour un système à deux niveaux, on peut montrer que cette polarisabilité, elle est en 1 sur delta plus i gamma sur 2. Donc delta, c'est toujours le désaccord entre votre laser et la transition. Et gamma, c'est toujours le taux d'émission spontanée de l'état excité. Alors, on a écrit tout à l'heure que l'hamiltonien de couplage entre un atome, un dipôle et le champ électrique, c'est quelque chose qui s'écrit comme moins d scalaire u. Si j'applique moins d scalaire u et que d, par ailleurs, c'est alpha de oméga e, vous voyez que je vais faire apparaître un terme en alpha e carré dans mon système. Alors, je ne fais pas les lignes de calcul intermédiaires, et d'ailleurs le calcul est un petit peu plus compliqué que ça, puisque je suis passé dans des champs complexes, donc quand on revient dans des champs réels, en fait on peut montrer que le potentiel d'interaction entre l'atome et le laser eh bien, est en partie réelle de la polarisabilité fois la valeur moyenne du champ au carré, c'est-à-dire l'intensité du champ. Et donc on peut montrer en particulier que la partie réelle de alpha ici, c'est quelque chose qui est en delta sur delta carré plus gamma sur 2 au carré. Donc ça dépend du signe de delta, si mon laser est à plus basse énergie ou à plus haute énergie que ma transition. Et donc vous voyez ici simplement que je suis en train de décrire un piège qui est proportionnel à l'intensité du champ électromagnétique. Et que si delta est négatif, ça me fait un potentiel attractif. Et si delta est positif, ça fait un potentiel répulsif. Et donc, je vais pouvoir, en fait, avoir, suivant là où je mets la fréquence de transition de mon laser, piéger mon atome, par exemple, à l'endroit où le champ est le plus intense. Alors, une fois qu'on met tout cela ensemble, comment est-ce qu'on fait pour piéger des atomes? Eh bien, on va avoir ce piège magnéto-optique qui permettent de piéger les atomes dans une zone déjà très réduite de l'espace, avec ces faisceaux contre-propageants. Et puis ensuite, ce que les chercheurs ont introduit il y a une dizaine d'années, c'est en fait un contrôle très précis des lasers en utilisant un SLM, c'est-à-dire un Special Light Modulator, qui va permettre en fait de créer à partir d'un faisceau laser plein de petits points lumineux qui vont constituer un piège pour les atomes. Donc on va pouvoir piéger les atomes ici dans ces petits pièges bleus. Et puis, en fait, ces modulateurs de faisceaux sont programmables. Et donc, on va pouvoir également définir l'amplitude du piège et puis déplacer ce piège, comme c'est montré ici, déplacer le tweezer, c'est-à-dire la pince optique, pour déplacer l'atome d'un point à un autre. Et donc, on va non seulement pouvoir piéger les atomes, mais les déplacer à volonté. Et donc, c'est en particulier ce qui a été fait dans cet article de l'Institut d'optique de l'équipe d'Antoine Brouwer en 2016, où il piège les atomes. Alors, les atomes, même s'ils voulaient piéger tous les atomes sur un réseau carré, ils ne sont pas tous piégés. Donc, vous avez des trous ici dans le paysage. Mais ensuite, ils peuvent corriger en réagissant dans le temps de vie de l'atome dans le piège pour redéplacer et créer un carré dense ici comme ici. Et puis ensuite, ils montrent en fait la versatilité de leur technique qui permet de faire vraiment un grand nombre de formes particulières. Et donc, c'est à partir de ce genre de réseau d'atomes, piégés sur une structure qui est dessinée, si vous voulez, à la main par l'humain, qu'ils vont pouvoir commencer à faire du calcul quantique analogique et digital. Passons maintenant aux ions. Cette fois-ci, on veut piéger notre système, qui est un atome qui est privé d'un électron, donc qui a une charge de plus. Et donc, cette fois-ci, on va utiliser un piège électrostatique. On va avoir des électrodes qui vont créer ce potentiel électrostatique ici que j'ai écrit sous la forme A, 2z² moins x2 moins y2. Alors, que vaut ce piège? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ou même simplement en physique classique, hein, qu'est-ce que j'ai? Ça veut dire que mon hamiltonien, mon terme de couplage, mon potentiel de couple subi par l'ion, c'est V égale QU, c'est QA 2z² moins x2 moins y2. Bon, ça c'est très simple en fait. Si QA est positif, faisons l'hypothèse que A est le produit entre la charge de mon ion et A est positif, ça veut dire simplement que en Z, j'ai un potentiel quadratique, donc c'est un piège. Mais en XY, malheureusement, cette fois-ci, mon coefficient devant il est négatif. Donc que ce soit en X ou en Y, en fait, mon potentiel, c'est pas un piège, c'est quelque chose qui repousse. Donc, ce potentiel électrostatique, il piège mon ion en Z, mais il le laisse s'étendre en XY. Comment faire un piège avec ça? Eh bien, il y a eu une très bonne idée qui a été proposée par, justement, le professeur Paul, j'ai oublié son prénom. L'idée, ça a été simplement de dire, eh bien, on va alterner le signe de A en mettant simplement un terme oscillant. C'est-à-dire que je commence par piéger en Z, mes ions vont avoir tendance à s'élargir en XY, j'inverse le signe de A, je vais le piéger en XY, ils vont commencer à s'étendre en Z, etc. Donc ça veut dire qu'il faut faire ça assez rapidement pour piéger dans les trois directions de l'espace. Alors je vous ai sélectionné une petite vidéo, une minute d'une petite vidéo que vous pouvez voir en détail sur YouTube. Je vous ai mis la référence ici qui explique tout ça en détail. Alors attendez, il faut que je sorte du mode laser. Ouf, comment on fait ça? Voilà. Et nous allons regarder ensemble. Donc c'est une expérience, vous voyez ici un petit anneau sur lequel on a une électronique qui applique un potentiel électrostatique et puis qui va être oscillant. Alors on ne va pas piéger des vrais ions ici, on va prendre des particules chargées, des grains de pollen que le chercheur ici a pris avec une pince, une petite tige en téflon qui permet de ioniser, si vous voulez. Et on va mettre, du coup, il va prendre une petite poignée de particules de pollen et les mettre dans son piège qu'il a éclairé avec un laser vert. Et vous voyez les ions qui sont piégés dans le piège, simplement, comme cela. Alors, c'est assez joli. Vous voyez, on voit les lignes de champ qui sortent du piège. Et puis ici, on regarde vue de dessus. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va moduler la profondeur du puits de potentiel pour utiliser la gravité pour perdre quelques ions et réduire le nombre d'ions dans le système. Et vous voyez ici, on arrive à une situation où on a, je ne les ai pas comptés, mais peut-être une vingtaine de particules chargées qui sont piégées au centre. Alors, je vais faire une petite pause là. Vous voyez que les particules que vous voyez là, elles apparaissent comme des traits. Alors ces traits viennent simplement du fait que vous avez votre système qui passe son temps à être piégé, dépiégé, piégé, dépiégé. Donc en fait, chaque ion fait un mouvement comme cela oscillatoire. Donc pour mettre en évidence ça, il va utiliser maintenant une lumière stroboscopique. Et puis on va choisir la fréquence pour voir apparaître. Donc là, ça va arriver, voilà. En se mettant proche de la fréquence de modulation, on voit apparaître le mouvement des particules chargées. Voilà, c'est comme ça qu'on piège les ions pour faire des ordinateurs quantiques. Moi, je trouve ça assez magnifique quand même. C'est vraiment de la physique classique simple, entre guillemets, qui permet de faire ça. Dernière chose sur laquelle il faut commenter, on a juste mis un piège et on a mis des particules dedans qui sont ont envie d'être au milieu, mais elles ont toutes la même charge. Et donc, en fait, elles se repoussent les unes des autres. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous avez ce qu'on appelle l'espèce de cristal, où les ions se mettent à distance les uns des autres, de façon à minimiser leur interaction coulombienne, tout en essayant le plus possible d'être au centre du piège. Et donc, c'est ce que les chercheurs font. Alors, en pratique, pour les ordinateurs quantiques, ils utilisent plutôt... Pardon, ça, c'est un piège de Paul. En pratique, ils utilisent exactement ces pièges-là, le piège de Paul, plutôt sur une réalisation linéaire, comme je vous ai montré sur la première image. Pour aller plus loin et pour pouvoir ensuite décrire les portes logiques et comment on manipule vraiment ces systèmes-là, j'ai choisi de ne pas décrire au niveau quantique ce potentiel-là, parce que c'est un potentiel qui dépend du temps. Donc l'hamiltonien est un petit peu compliqué. Donc j'ai choisi une autre version, qui est un autre type de piège, qu'on appelle le piège de Penning. Donc on part du même potentiel électrostatique, cette fois A est fixé, on va avoir Q1 positif, et donc ça piège selon Z. Et puis maintenant, je vais aussi piéger dans le plan. Eh bien, on rajoute un champ magnétique selon Z. On a vu ensemble à la première leçon que si je mets un champ magnétique selon Z, je vais avoir la précession de la remorque d'une particule autour de ce champ magnétique. Donc d'une certaine façon, quand vous mettez un champ selon Z, une particule chargée va être piégée dans le plan perpendiculaire à Z simplement par la présence de ce champ magnétique. Et donc en fait, la combinaison d'un potentiel électrostatique et de ce champ magnétique, c'est une autre façon de piéger, cette fois-ci avec un potentiel qui ne, un hamiltonien qui n'évolue pas dans le temps, des particules chargées. Alors, on va prendre quelques minutes, on va faire quelques lignes de calcul pour que vous voyez apparaître l'hamiltonien qui décrit ce mouvement. Et pour cela, en fait, on va utiliser cette formulation qui, en fait, pour décrire les champs magnétiques en mécanique quantique, on va rajouter à l'hamiltonien qui est normalement P2 sur 2M plus QU, où U est le potentiel électrostatique. On va utiliser en fait une transformation qui fait apparaître à la place de P, P-QA. Qui vient du fait que quand on met un champ magnétique, l'impulsion et la quantité de mouvement ne sont plus équivalents en mécanique quantique. Alors regardons quel hamiltonien cela nous fait. Alors je vais prendre mes petites notes pour être sûr de prendre les mêmes notations. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a notre hamiltonien, du coup, s'écrit donc P-QA au carré, donc en X. Donc c'est PX. Et le potentiel vecteur en X, c'est donc du coup QBY sur 2 au carré sur 2N. Donc ça, c'est PX moins QAX au carré. Je vais avoir la même chose en Y. Alors en Y, du coup, ça va être du moins QBX sur 2. Et puis, je n'ai pas de composante selon Z de A, donc ça me fait simplement un PZ carré sur 2M. Voilà. Et puis, il me reste QU. Alors QU, ben, c'est plus QA 2Z2 moins X2 moins Y2. Alors, il y a quelque chose qui est sympathique ici, c'est en Z. En Z, j'ai un PZ carré sur 2M plus 2QAZ2. Ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est un oscillateur harmonique, comme on l'a défini au cours numéro 2, simplement en posant que M oméga Z carré, c'est 2QA, 4QA. Je ne me suis pas trompée, on verra. Oui. Voilà, ensuite, donc là j'ai un oscillateur harmonique selon Z. Sympathique. Et puis en X, Y, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir des termes qui vont aussi nous emmener vers un oscillateur harmonique. Donc si je prends tous les termes en X2, je vais avoir un Q2 B2 sur 8M ici, qui vient de ce terme-là au carré. Et ce terme-là me donne un moins QA. Ça aussi, c'est un oscillateur harmonique. Et puis, je vais avoir la même chose en Y. Alors, Q2, B2 sur 8M. Toujours pareil, moins QA, Y2. OK. Et puis, il nous reste un truc. Alors, je rajoute. Donc, j'aurais dû rajouter, pardon. Je vais mettre le Z, c'est HZ. Et puis, il nous reste les termes croisés. Alors, les termes croisés, qu'est-ce qu'ils valent ? Eh bien, ils valent 1 sur 2M, QB, et puis j'ai un Y, PX, moins X, PY. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le moment cinétique. C'est la composante selon Z du moment cinétique. Le moment cinétique étant défini comme R vectoriel P, comme en mécanique classique, mais avec sous forme d'opérateur. Donc là, on est un petit peu insatisfait, parce qu'on a un hamiltonien qui fait apparaître, si je résume ce que je viens de faire, un hamiltonien d'oscillateur harmonique selon Z, très bien, des oscillateurs harmoniques dans le plan, avec une fréquence oméga carré pour faire apparaître le 1/2 de M oméga 2 qui est donné ici. Mais j'ai ce terme LZ qui vient compliquer la donne, qui ne permet pas de dire directement quels sont les niveaux d'énergie de mon système. Alors, je rassemble tout ça ici. Il y a une astuce pour s'en sortir qui est qu'on va, donc je vais pouvoir introduire les opérateurs A et A croix qui correspondent aux oscillateurs harmoniques dans le plan, ici, là. Donc, je vais pouvoir réécrire ça sous la forme des opérateurs A et A croix comme nous l'avons fait au premier cours. Et quand je fais ça, en fait, j'ai rien changé. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir, en fait, donc je les définis de manière standard. Hein, ils sont définis à partir des opérateurs X et P et Y et PY. Mais je vais pouvoir définir, en fait, deux autres opérateurs création et annihilation, qui sont des A+ et des A-, qui sont des combinaisons linéaires de AX et de AY. Pourquoi on fait ça ? En fait, simplement parce que le champ magnétique selon Z, ce qu'il fait par la précession de l'armoire, c'est qu'on coupe le mouvement entre X et Y en permanence. Et donc, en fait, on va mettre les X et les Y de manière symétrique dans cette situation-là, parce qu'il y a une différence entre le X et le Y à cause du terme I qui donne lieu à cette complexité. Donc, en faisant ce changement ici, en fait, dans le plan complexe de coordonnées, eh bien, en fait, on va pouvoir introduire ces nouveaux opérateurs de création et d'annihilation. On peut montrer que c'est des opérateurs tout à fait équivalents à AX et à Y, qui réagissent aux mêmes relations de commutation. On va pouvoir introduire les opérateurs nombres associés, que nous avions introduits également pour l'oscillateur harmonique, qui sont simplement les A croix A. Et en faisant ça, eh bien, on peut montrer qu'en fait, si je regarde ces deux opérateurs, eh bien, ils s'expriment en fonction des opérateurs nombres en X et en Y, plus ou moins un terme qui fait apparaître ce moment cinétique, selon Z. Et donc, en faisant ça, en prenant la somme et la différence, on peut écrire cet hamiltonien total comme l'hamiltonien selon Z que j'avais déjà décrit au début avec la fréquence oméga Z qui fait apparaître un nombre quantique selon Z. Et puis, dans les autres directions, vous avez ici deux fréquences qui apparaissent, grand oméga moins oméga sur C et grand oméga plus oméga sur C sur 2, pardon, et qui font apparaître deux autres nombres quantiques. Voilà. J'ai fait le calcul juste pour vous montrer. Donc quand je mets un champ magnétique et un potentiel électrostatique pour piéger un ion, finalement, je peux décrire son mouvement comme celui d'un oscillateur harmonique avec trois nombres quantiques. Et donc, en fait, je viens de ramener mon système d'ion piégé. Alors, je vais considérer que j'ai choisi deux transitions dans mon ion piégé qui vont définir mon atome. Et c'est ce système est là et dans un potentiel harmonique qui décrit le mouvement en fait, des atomes dans ce piège. On a beaucoup de mouvements possibles. Je vous montre ici une publication qui regardait le spectre en fait, de ces niveaux d'énergie ici. Donc vous avez les niveaux d'énergie intrinsèques, ici à la fréquence centrale, entre vos deux niveaux. Mais votre atome peut être en mouvement axial. Et dans ce cas, ça va se traduire par un pic ici vers plus 1 ou moins 1 MHz ici. Donc il va avoir un mouvement d'énergie en plus, un quantum d'énergie mécanique en plus ou un quantum d'énergie mécanique en moins. Où il va pouvoir avoir un mouvement radial, et dans ce cas, c'est encore à une autre fréquence, ici, à 5 MHz, etc. Et ce que je vous montre ici, c'est que finalement, par exemple, là, c'est les modes mécaniques d'un système de 3 ions, une petite chaîne de 3 ions. Ils ont chacun des mouvements axiaux et radiaux, plus relatifs les uns aux autres. Vous avez plein de pics qui apparaissent, qui décrivent le mouvement collectif de ces ions, le mouvement de leur centre de masse, des 3 ions, je vais vous montrer ça dans un instant, les mouvements de respiration et d'autres modes de déplacement. Tout ça pour expliquer que finalement, ce système d'ions dans un piège de Penning, mais en fait, avec le piège de Paul, on a le même hamiltonien équivalent, on va non plus décrire les états de notre système, on va plus simplement les décrire comme l'ion dans l'état fondamental ou dans l'état excité. Mais je vais devoir préciser combien il y a d'excitation élémentaire d'un mode de mouvement dans le piège. Alors, je vous montre... Oui, c'est ça. Alors, maintenant j'introduis le fait que mon système n'est pas simplement un ion, mais c'est un ion dans un piège qui va pouvoir bouger, ça veut dire que je décris ces E et G, c'est leur degré, c'est les niveaux d'énergie interne, et N, c'est son niveau d'énergie externe, ça décrit son mouvement. Et donc, je vais avoir quatre niveaux d'énergie que je vais considérer qui vont coupler, par exemple, les états dans l'état fondamental avec N ou avec N plus 1 quantum d'énergie dans le mode mécanique ou l'état excité avec N ou N plus 1 quantum d'énergie dans le mouvement mécanique. Et ce qu'on introduit, maintenant, c'est qu'on va avoir plusieurs types de transitions que vous voyez ici à l'écran. Je vais pouvoir exciter mon système à la fréquence nominale qui va emmener de G à E, de l'état fondamental à l'état excité, ici ou là. Mais je vais pouvoir aussi faire des transitions qui amènent mon ion d'un état fondamental avec un certain nombre d'énergie, de quantum d'énergie élémentaire, vers un état excité avec un quantum d'énergie élémentaire mécanique moins. Donc ici, votre atome a pris de l'énergie dans son degré interne, mais il bouge moins, si vous voulez, dans le piège. Et inversement, j'ai cette autre transition qui a plus grande énergie, qui emmène mon système d'un état, par exemple, G. Mettons que N égale E, c'est G, c'est mon atome qui est dans le piège, dans l'état fondamental, et il ne bouge pas. En excitant cette transition-là, je vais l'emmener dans son état excité et je vais le mettre en mouvement. Si je passe de N à N égale 0 à N égale 1. Et donc, quand on regarde le spectre des transitions, eh bien, je vais avoir mon laser qui est à la différence d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental qui est ici. Et on appelle ça une bande latérale rouge à gauche et une bande latérale bleue à droite. Alors, vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, une fois que j'ai introduit tout ça, imaginons que mon ion est dans un état très très excité, il bouge énormément dans le piège. Comment je peux ralentir? Il suffit que j'allume mon laser rouge, ma bande latérale rouge. Pourquoi? Mettons qu'il était dans l'état fondamental ici, avec un très grand nombre d'excitations élémentaires du mouvement mécanique. Je l'emmène dans l'état excité ici, où j'ai enlevé un quantum d'énergie mécanique. À partir de cet état-là, il va pouvoir revenir dans l'état fondamental en émettant un photon. Alors, s'il arrive là, moi j'ai mon laser rouge qui est allumé, donc je le ramène ici. Il perd encore un quantum d'énergie mécanique en émettant un photon, etc. etc. Donc j'ai une cascade qui va ici de cet état-là continuellement vers l'état fondamental où mon atome est dans un état où il ne bouge pas du tout. N égale 0, pas de mouvement du centre de masse. J'ai refroidi mon ion. Si jamais, quand il était là, il revient ici, parce que l'émission spontanée peut se faire dans cette direction-là aussi, c'est pas grave, parce que mon laser est toujours allumé, donc ça le ramène là, jusqu'à ce qu'il tombe là. Et si jamais il tombe là, ça veut dire que là, je vais encore plus vite, je refroidis plus vite, c'est-à-dire que là, j'ai émis plus de lumière, j'ai refroidi plus en perdant un quantum d'énergie en plus à l'émission. Donc vous voyez que ça marche très bien. Et donc ça, ce sont des techniques qui sont vraiment maîtrisées depuis une trentaine d'années, maintenant je dirais dans les ions piégés. Et là je vous montre un exemple d'une autre publication qui a refroidi tout le système comme ça dans l'état fondamental. Donc ils ont pris une chaîne d'ions, ils les ont refroidis jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus du tout. Et puis ensuite ils peuvent exciter à différentes fréquences, différents mouvements. Donc les mouvements qui sont montrés ici, vous voyez le déplacement des ions. Là, donc ici vous avez un mouvement rigide de l'état fondamental, tout le centre de masse qui se déplace ici. Ici où les atomes vont osciller entre le centre, etc. J'ai demandé à mes collègues de l'université d'Innsbruck de m'envoyer des images qu'ils mesurent régulièrement dans leur laboratoire. Vous voyez ici une chaîne d'ions qu'ils ont au départ arrêtée et puis ensuite ils l'ont mis en mouvement. Ils ont mis le mouvement du centre de masse, la centre de masse en mouvement comme cela. En changeant de fréquence, ils ont pu choisir un autre mouvement des ions dans le système. Vous voyez, c'est extrêmement puissant ici. On peut ainsi vraiment contrôler la position des ions dans le système. Et puis surtout, vous allez le voir, ces modes mécaniques, comme on les appelle, vont nous permettre de faire des portes logiques entre les ions. Passons à la deuxième partie, qui est de choisir des transitions qui nous permettent d'encoder des qubits. Donc ça correspond à ces trois critères de DiVincenzo. On commence ici par les ions piégés. Dans les ions piégés, on a en fait deux grandes catégories de transitions qui sont utilisées pour encoder la formation. On a des transitions dites optiques et des transitions micro-ondes. Simplement, ça vient de la différence d'énergie entre les deux niveaux. Nous allons les regarder séparément. Prenons d'abord les transitions optiques, on appelle ça des qubits optiques. On les avait déjà mentionnées au cours numéro 3 quand j'avais parlé de décohérence, en expliquant qu'il fallait que si on encodait le qubit entre un état fondamental et un état excité qui peut émettre de la lumière, cette émission de lumière constitue une perte et donc une décohérence. Et donc il faut un système qui a un très faible coupage avec la lumière. Et donc on choisit des transitions, par exemple ici entre l'état S1,5 et D5,5, qui montrent des temps de vie de la transition de l'ordre de la seconde. Donc ce sont ceux-là, ces qubits optiques. On les choisit en général avec des noyaux de spin nuls, vous allez voir pourquoi, et avec des transitions optiques très lentes. Alors un exemple, atomes de calcium. J'ai pris une image du séminaire du professeur Rainer Blatt au Collège de France il y a à peu près exactement 10 ans, où on a la transition qui permet d'encoder le qubit ici. Donc le qubit, il est dans l'état 0, ou spin down en bas ici, et dans l'état 1 là. Et donc pour mesurer si le qubit est dans cet état-là, simplement il va utiliser la transition optique qui, elle, est optiquement active, ici dans l'ultraviolet, à 397 nanomètres, et on va mesurer le nombre de coups détectés. Si le qubit est dans cet état-là, on va l'emmener dans l'état excité, et ensuite il va émettre un photon. S'il était dans cet état-là, il ne va pas réagir à la lumière. Et donc pour mesurer l'état du qubit, on va simplement regarder, on allume le laser bleu, et on va regarder le nombre de photons émis. Avec un petit nombre de photons, très très faible nombre de photons, on sait qu'on était dans cet état-là, l'état 1. Et si on a beaucoup de photons détectés, on sait qu'on était dans l'état ici du bas, du qubit. Alors, dans la vraie vie, je vous montre juste un petit dessin. Les systèmes sont plus compliqués que ça. Moi, j'ai pris des dessins qui simplifient les règles de transition. En fait, tous ces états sont connectés. Donc, dans la vraie vie, il y a des lasers en plus qui permettent de repomper le système s'il part dans un état qui n'était pas celui qui était voulu, etc. Donc en fait, il y a plus de lasers que ceux que j'indique. Il y a toute une technologie derrière, laser derrière ces technologies qui permettent vraiment de réaliser le système simple que je vous ai expliqué. Et puis maintenant, donc on sait, donc dans les qubits optiques, en fait, l'état fondamental du système, c'est le qubit en bas. Il y a une telle différence d'énergie ici entre l'état du bas et l'état du haut que le système est naturellement dans cet état fondamental où l'électron est dans l'état S1/2. Et on va pouvoir mesurer l'état, c'est ce que nous devons faire. Et puis la dernière étape qu'il nous faut, c'est simplement manipuler l'état. Là, c'est simplement, je vais prendre mon laser entre ces deux états-là et je vais faire ce qu'on a décrit au cours numéro 3, les oscillations de Rabi. On va, en augmentant le temps où on applique le laser, pouvoir emmener le système de l'état fondamental vers l'état excité de manière périodique ici, comme vous le voyez avec ces magnifiques oscillations de Rabi. Première catégorie de qubits. Deuxième catégorie de qubits, c'est les qubits micro-ondes. Alors, je vous en ai montré deux dans le premier transparent. Il y a des qubits Zeeman et des qubits de transition horloge. Je ne parle pas des qubits Zeeman qui sont en fait moins étudiés. Je m'intéresse simplement à ceux-là qui, vous le voyez, vont encoder l'information cette fois-ci dans des sous-niveaux des états du bas. On a maintenant l'état S1/2 de l'électron qui apparaissait comme un seul état dans le transparent d'avant. Ici, on a une structure avec plus d'états et qui vient de l'interaction entre l'électron et le spin de l'électron et le spin du noyau. Et on a donc une structure avec ici quatre états qu'on va prendre le temps d'expliquer ensemble, parce qu'en fait, ça définit ce qu'on appelle une transition horloge, ici, entre ces deux états, qui est choisie pour sa propriété à être très peu sensible au champ magnétique. Et évidemment, on ne veut pas un qubit très sensible au champ électrique et au champ magnétique, parce que ça crée de la décohérence. Alors, comment est-ce que se passe-t-il ici? Eh bien, cette fois-ci, on a un noyau qui a un spin non nul. Et vous allez voir, on va avoir un couplage entre le spin du noyau et le spin de l'électron. C'est ce qu'on appelle le couplage hyperfin. Alors, regardons ce couplage hyperfin. En fait, on peut l'écrire comme un couplage entre deux petits moments magnétiques élémentaires. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'écrit en S, le spin de l'électron, scalaire I, le spin du noyau. Et nous avons cette structure qui est celui de l'ion ytterbium 171 ici, qui est utilisé par exemple par la société IonQ. Vous avez quatre niveaux comme ceci, et le qubit est encodé entre ces deux niveaux du niveau ici. Alors on va regarder ensemble ce que sont ces deux états. Pour ça, ces quatre états, pour ça, je vais introduire le spin total de mon système. La somme des deux spins, le spin de l'électron plus le spin du noyau, j'appelle ça J, un spin total. Pourquoi je fais ça? Alors, le spin de l'électron, ça agit sur l'électron. Le spin du noyau, ça agit dans le noyau. Donc en fait, quand j'écris ça, j'ai en fait la somme de deux opérateurs qui agissent dans des espaces différents, qui agissent même sur des particules différentes. Et donc quand je prends le modulo carré de J, je n'ai pas de problème de non-commutation d'opérateurs, quoi que ce soit. C'est simplement S au carré plus I au carré plus 2S scalaire I. Et donc vous voyez que en prenant le moment cinétique total ici, mon terme de couplage entre le noyau, le spin du noyau et le spin de l'électron est très simple. Il s'écrit très simplement en fonction de J2, S2 et I2. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien en fait, on peut montrer de manière générale en mécanique quantique que quand j'ai deux spins comme cela, le spin de l'électron, le spin du noyau, et que je crée le spin total, mon J ressemble à S plus I, Eh bien, en fait, je peux montrer que cet opérateur J est aussi un opérateur moment cinétique. Donc, c'est aussi un opérateur de spin. Et en fait, on peut montrer qu'on peut diagonaliser ensemble, trouver des états propres communs entre J2, S2, I2 et une composante du moment cinétique total J selon Z. Et donc, je peux décrire mon système avec des états propres très simples qui sont décrits par trois nombres quantiques I, S, J et M. Et ces états propres, eh bien, sont en fait des états propres de tous ces états-là. Alors, c'est ce que j'ai écrit sur le transparent suivant. Et on fait ça parce que du coup, l'hamiltonien d'interaction entre l'électron, le spin de l'électron et le spin du noyau est très simple, il se met de manière diagonale. Donc on peut montrer qu'on peut tout diagonaliser simultanément. On peut prendre des états propres communs. Et les états propres sont très simples, sont donnés par les nombres quantiques. Donc l'état propre de I2, c'est donc cet état ISJM, eh bien, a une valeur propre qui est h bar carré II plus 1. Pour S2, la valeur propre c'est h bar carré SS plus 1, etc. Et pareil pour J et JZ. Et une fois que j'ai fait ça, bah mon couplage hyper fin s'écrit simplement, si je l'écris A, S, calaire I, ça fait du A sur 2, J2 moins S2 moins I2. Quand j'applique ça à un de ces états propres communs, ça me donne un terme très simple qui est en JJ plus 1 moins SS plus 1 moins II plus 1. Donc mon hamiltonien est diagonal dans cette base. Alors, moi j'ai pris un électron, un de mes spins c'est un électron, donc j'ai S qui vaut 1,5. Et puis maintenant, on va regarder ce qui se passe simplement pour un noyau qui a aussi un spin nucléaire 1,5. Donc je prends le cas où I égale 1,5. Que se passe-t-il? Eh bien, si j'ai S et I qui valent tous les deux 1,5, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que les valeurs de J, ici, elles appartiennent à I moins 1,5. C'est tous les nombres entiers ou demi-entiers entre I moins 1,5 et I plus 1,5. Et donc si I est égal à 1,5, donc je suis en train de regarder en fait le couplage de deux spins 1,5, eh bien ça veut dire que J appartient simplement à 0 ou 1. Et donc j'ai des états propres, j'oublie le I et le S qui valent 1,5, hein. J'écris simplement, bah, je vais avoir J égale 0, J égale 0 et dans ce cas M forcément 0, ou J égale 1 et dans ce cas M vaut soit moins 1, soit 0, soit 1. Et donc ce que je vous ai montré, écrit ici, c'est les états qu'on appelle la base couplée, quand on couple deux spins 1,5. Vous avez ici, en fait, pour J égale 0, un seul état, qui est cet état antisymétrique. Le premier spin, c'est le spin de l'électron, le deuxième spin, c'est le spin du noyau, donc up, down, moins down, up, sur racine de 2. Et pour l'état triplé, vous avez ici ces trois états possibles. Les deux up, c'est 1, 1. Les deux down, c'est 1, moins 1. Et 1, 0, c'est up, down, plus down, up, sur racine de 2. Et donc, quand vous regardez ici, la formule ici, des niveaux d'énergie qui viennent du couplage hyper fin, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a A, h bar carré sur 2. Et puis, on a simplement ici, c'est I, c'est maintenant, c'est 3, c'est 1,5. Donc, on a, en fait, dans ce cas ici, on a que E ne dépend plus que de J. Et ça vaut A h bar sur 2, et puis J plus 1, moins 3,5, j'ai 2 fois 3 quarts. Et donc j'ai deux niveaux d'énergie pour J égale 0 ou J égale 1. Et voilà, on a montré que finalement, mon électron, il a maintenant 3-4 niveaux d'énergie possibles. En fait, c'est les niveaux d'énergie combinés du spin de l'électron et du spin du noyau, où on voit apparaître cet état où on a un seul état en bas et trois états en haut. Donc c'est ce qu'on avait commencé à voir dans les qubits qu'on utilisait. Dernière étape, je rajoute un champ magnétique. Le champ magnétique, on l'a vu au premier cours, ça va donner un hamiltonien de couplage qui est en moins mu scalaire B. Alors mu, cette fois-ci, je vais avoir le moment magnétique total, donc je vais avoir à la fois le spin de l'électron et le spin du noyau. Mais les facteurs gyromagnétiques ici sont inversement proportionnels à la masse. Donc le spin de l'électron ayant 1 sur la masse de l'électron, pardon, le gamma E ayant 1 sur la masse de l'électron, est bien plus grand, plus de 1000 fois plus grand que le même facteur gyromagnétique pour le noyau. Donc en fait, ce terme-là disparaît. Et pour aller au bout du calcul, eh bien maintenant on va comprendre d'où vient l'intérêt de ces transitions particulières, qui les transitions qui vont nous intéresser, ce sont ces deux-là. Que se passe-t-il? Je prends mon hamiltonien total. Mon hamiltonien total, c'est le couplage entre le spin du noyau et le spin de l'électron, le couplage hyper fin, le couplage au champ magnétique. Je vais introduire, alors, j'introduis des fréquences. Il est loin le tableau. Je vais avoir maintenant mes trois niveaux qui sont comme cela. Je vais définir que ça, c'est mon niveau d'énergie. Et je vais appeler ça H bar oméga F, hein, pour me débarrasser des A, etc., pour simplifier. Et donc, je vais introduire cette fréquence qui correspond à la structure hyper fine. Et puis, je vais avoir mon couplage qui est au champ magnétique et je vais lui donner une fréquence aussi ici, oméga B. Et je vais écrire maintenant mon système dans la matrice, dans la base des états. Donc, ces états que j'ai décrits avant, les états couplés, donc 1, 1, 1, 1, 1, 0 et 0, 0. Alors, regardons. L'état 1, 1. Je reviens par ici. L'état 1, 1, J égale 1, M égale 1, c'est l'état où mes deux spins sont pointent vers le haut. Donc ça, c'est un état propre de l'hamiltonien hyper fin, c'est pour ça que j'ai pris cette base-là. Et maintenant, que se passe-t-il quand j'applique simplement W? Ben, j'applique SZ. Quand j'applique SZ sur cet état-là, en fait, ça veut dire que j'applique SZ sur le spin de l'électron et je ne fais rien au spin des noyaux. Et donc, appliquer SZ sur ce spin qui pointe vers le haut, c'est H bar sur 2, le même état. Donc, vous voyez ici apparaître le plus oméga B sur 2. Ça fait H bar oméga B sur 2. Si je fais la même chose sur l'état 1 moins 1, bon, 1 moins 1, c'est l'état qui pointe vers le bas. Quand j'applique SZ sur ça, bah cette fois-ci, je vais avoir un SZ sur le spin qui pointe vers le bas, je vais avoir un moins H bar sur 2, le même état. Donc du coup, ça me fait apparaître un moins oméga B sur 2. Et puis là où ça devient intéressant, c'est que quand j'applique ça sur l'état 1, 0, j'applique SZ sur l'état 1, 0, qu'est-ce que c'est l'état 1, 0? C'est l'état, j'applique donc SZ sur l'état up pour l'électron, down pour le noyau, plus SZ down, appliqué down sur l'électron et up sur le noyau sur racine de 2. Et bien là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que quand j'applique SZ sur up, ça me fait un H bar sur 2. Mais quand je fais S down sur down, ça fait un moins H bar sur 2. Et ça, ça me donne du coup du H bar sur 2, pas 1, 0, mais 0, 0. C'est l'autre état, l'état qui est plus, moins, 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 plus. Et donc là, vous avez un terme de couplage qui, cette fois-ci, est non diagonal. C'est-à-dire que je couple l'état 1, 0 vers l'état 0, 0 et inversement. Et donc maintenant, on peut regarder tous les niveaux d'énergie de ces états. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? On va résoudre simplement. Alors, on a les deux termes qui sont diagonaux. Alors, les termes diagonaux, qu'est-ce qu'ils font? Oups! L'application du champ magnétique, ça va faire baisser ce niveau-là et monter celui-là, proportionnellement à B. Et puis au milieu, les deux niveaux du milieu, pour calculer les niveaux d'énergie, je vais devoir diagonaliser cette matrice de 2, ce qui est très simple. Et je vais trouver, en fait, en faisant un développement limité, des fréquences qui sont déplacées, mais cette fois-ci, vous voyez, en B carré. Et donc ces fréquences d'horloge, on les apprécie beaucoup parce que, contrairement à ces états-là, ici, à droite et à gauche, qui ont leur niveau d'énergie qui se déplace proportionnellement à B, et donc qui sont très sensibles en fonction du champ magnétique, à faible champ, eh bien ici, vous avez un déplacement qui est quadratique. Et donc, on aime ces transitions parce qu'a priori, elles protègent mieux de la décohérence. Alors, une fois qu'on a choisi d'encoder nos qubits dans ces états-là, on a une première étape qu'on n'avait pas pour le problème... Alors, pardon, on va d'abord voir comment on lit le qubit, l'état du qubit. On va faire comme d'habitude. On va décider d'un laser, on va positionner un laser ici, on emmène notre système là, il va émettre un photon. S'il était dans l'état 0, il n'émettra pas de photon. Exactement comme tout à l'heure, on va pouvoir lire optiquement l'état du qubit. Alors, on a une étape supplémentaire à faire, hein, parce que cette fois-ci, la différence des niveaux d'énergie entre les deux états de mon qubit est très basse. C'est simplement la dizaine de gigahertz, on est dans les micro-ondes. Donc dans l'état naturel, le système n'est pas dans un état défini, soit 0, soit 1. Et donc il va falloir pomper le système dans un des deux états. Pour ça, on va par exemple mettre le laser violet ici entre cette transition et celle-là. Une fois arrivé là, le système va pouvoir émettre un photon, soit pour revenir dans cet état-là, soit pour aller dans l'état fondamental. Et une fois qu'il sera là, dans l'état zéro, mon laser n'aura plus d'effet sur lui. Donc, s'il est revenu là, mon laser est toujours allumé, et je vais faire un certain nombre de cycles jusqu'à ce qu'il arrive en bas. Donc, simplement en allumant mon laser assez longtemps, je vais m'assurer que mon qubit est dans l'état ici zéro. Alors, encore une fois, juste pour vous montrer, il y a beaucoup plus d'états que ceux que je vous montre, hein. Et tout ce qui se passe, se passe pas avec trois flèches, mais avec une dizaine, mais ça marche quand même. Et puis enfin, comment est-ce qu'on va manipuler ? On va faire des oscillations de Rabin dans notre qubit. Cette fois-ci, j'ai une difficulté, parce que mes deux états sont séparés d'une énergie très faible, qui est de l'ordre du gigahertz. Ça, normalement, si je voulais allumer un laser, ça serait une longueur d'onde qui est de l'ordre du centimètre, donc je ne vais pas pouvoir adresser simplement un seul ion. Et donc, pour faire ça, en fait, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils vont en fait prendre deux faisceaux laser, bleus ici, comme je vous les montre là, avec une différence de fréquence qui va être égale à la différence de fréquence entre les deux états que je veux manipuler, mais désaccordée d'un état excité. C'est-à-dire qu'on va se mettre à distance d'un état excité ici pour ne pas créer de population dans l'état. Et on va être dans ce qu'on appelle un régime d'excitation Raman, d'ordre 2, d'interaction entre l'atome et la lumière, qui montre en fait que ça revient à faire une application d'un champ à la différence de fréquence ici, et de contrôler les oscillations de Rabi dans ces deux états du bas. Et vous voyez ici des très belles oscillations de Rabi d'un qubit de dit d'horloge, un qubit micro-ondes. Voilà, alors là je vous montre la zoologie importante de tous les qubits qui existent à base d'ions. Vous avez ici une donnée importante qui est le spin du noyau. Vous voyez qu'il y a des noyaux qui ont un spin nul ici. C'est là qu'on va pouvoir avoir des transitions optiques, c'est là où il y a écrit O, ici. Partout où il y a un spin 0, on va pouvoir avoir des transitions optiques. Et quand on va avoir des spins non nuls, on va pouvoir avoir des transitions H, qui sont les transitions hyper fines. Donc on va pouvoir utiliser en particulier des transitions d'horloge ici, que vous voyez apparaître là. Et là, je vous ai souligné trois types d'espèces que j'ai vues être utilisées dans les startups aujourd'hui, du calcium, du barium et de l'ytterbium pour faire des ordinateurs quantiques. Passons maintenant aux autres ordinateurs, les ordinateurs pas avec des ions mais avec des atomes neutres. Ici, on va utiliser des états quantiques très particuliers qui sont, alors on va avoir les mêmes états qui ressemblent à ceux que je vous ai montrés en bas, hein, les états d'horloge, etc. Mais on va aussi également utiliser des états très très hauts d'énergie, très excités. On va avoir un nombre quantique principal N et un nombre azimutal L très grand devant 1. Et ces atomes sont mis dans cet état qu'on appelle des états de Rydberg, parce que dans ces états, l'électron est très délocalisé, très loin du noyau, et ainsi va explorer un espace qui est très grand, ce qui, vous allez le voir, est très intéressant pour faire des portes logiques entre les atomes. Ces états ont des temps de vie longs, de l'ordre de la centaine de microsecondes, et une très grande sensibilité au champ électrique, ce qui est un avantage pour faire des portes logiques, qui peut être un inconvénient pour la décohérence. Je vous prends ici un exemple, donc vous avez des niveaux d'énergie, on va prendre les états du bas pour encoder un des qubits, et pour encoder l'autre, on va avoir plusieurs façons de faire, un état fondamental et un état de Rydberg, on appelle ça des ground Rydberg qubits, deux états de Rydberg, ou deux états fondamentaux, par exemple deux transitions d'horloge, là aussi, et on va utiliser simplement les états du haut pour faire des portes logiques. Et c'est ça qui va être utilisé majoritairement. Passons à la dernière étape clé qu'il nous faut pour montrer qu'on peut faire un calcul quantique, réaliser des portes logiques entre ces qubits. Alors, mettons un petit peu des échelles ici, entre mes atomes ici dans les ions là, qui se déplacent, la distance entre les ions, c'est de l'ordre de quelques microns. Dans les pinces optiques, la distance entre les atomes aussi, c'est de l'ordre du micron, voire un peu plus. Comment est-ce qu'on va intriquer deux atomes ou deux ions ensemble ? Eh bien, on va avoir deux approches. Avec les ions, on va regarder ça tout de suite, on va faire une intrication qui va être médiée par le mouvement. On va utiliser le mouvement des ions pour intriquer les ions entre eux. Alors qu'avec les atomes de Rydberg, on va utiliser cette capacité à les mettre dans des états excités où on a un nuage électronique, si vous voulez, qui est étendu sur une très grande distance, pour faire interagir des atomes proches, voisins, l'un avec l'autre. Alors, je vous présente ici, on va faire en quelques minutes... On va décrire la porte qui a été proposée par deux chercheurs, Sirac et Zoller, en 1995, qui a complètement lancé le domaine du calcul quantique à base d'ions. Parce que la question jusque-là, c'était comment je fais des portes logiques entre deux systèmes qui ne se voient absolument pas d'un point de vue électronique, d'un point de vue de l'interaction électrostatique. Alors, j'ai repris ici des petits dessins qui ont été proposés par le groupe de Chris Monroe aux États-Unis qui décrivent la séquence. On prend ici, et on va ensuite faire le calcul ensemble. Je prends une chaîne avec 4 ions, et au départ, ils sont tous en train de pointer vers le bas. Donc, j'appelle maintenant spin-up ou spin-down pour l'état 0 ou 1 de mon ion. Je vais mettre l'état l'ion de gauche ici dans une superposition up plus down. Et je vais prendre un laser, et je vous ai dit que je pouvais mettre en mouvement ou arrêter le mouvement d'un ion simplement en choisissant la fréquence à laquelle j'interagis. Et donc la séquence va être la suivante. On va mettre cet ion dans une superposition, up plus down, et ensuite avec un laser, on va le faire basculer de up vers down, s'il était dans l'état up, et on va le mettre en mouvement. Donc à tous les coups, il est maintenant vers le bas, mais maintenant je l'ai mis en mouvement, mais en le mettant en mouvement lui, j'ai mis en fait en mouvement toute la chaîne d'ions. Donc maintenant, j'ai créé une superposition entre mes ions qui bougent et mes ions qui ne bougent pas. Ensuite, on va faire une deuxième étape. On va faire une manipulation sur le qubit de droite, ici, sur l'autre ion. On va le retourner s'il était en mouvement. Et enfin, on va à nouveau retourner l'ion de gauche. S'il était en mouvement, on va le ramener dans un... On va le retourner et le remettre au repos. À la fin, on a remis la chaîne au repos. Et vous allez le voir, on a intriqué ces deux ions qui sont distants l'un de l'autre. Alors, je vais faire le calcul avec deux ions qui sont juste à côté l'un de l'autre. Je vais oublier ceux du milieu. Vous avez vu qu'ils ne servent à rien. Ils sont spectateurs, on ne leur fait rien. Mais le message, déjà, c'est qu'on peut intriquer deux ions à distance l'un de l'autre avec plein d'ions entre les deux, indépendamment. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une connectivité qu'on avait décrite dans les figures de mérite avec ce système qui est absolument parfaite. On peut faire des portes entre n'importe quels ions. Alors, décrivons ça correctement. Que se passe-t-il? Eh bien, je vais avoir mon ion de gauche qui va avoir soit l'état up, soit down, down ou up, l'ion de droite, down ou up, et je vais considérer le fait qu'au départ, j'ai mis tout le monde au repos, donc j'ai mis mes deux ions dans l'état down, down, et personne ne bouge. Et j'ai à ma disposition mes quatre transitions ici que j'ai décrites avant, mon état qui pointe vers le bas ou vers le haut avec pas d'excitation du mouvement, ou vers le bas ou vers le haut avec une excitation du mouvement, et j'ai les transitions qui relient verticalement ici, ou en diagonale, donc la bande latérale rouge ou la bande latérale bleue. Allons-y. Je pars de ces systèmes-là. La première étape, ça va être de mettre mon ion 1 qui pointait vers le bas dans une superposition up plus down. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement faire des oscillations de Rabi, s'arrêter à un pulse pi sur 2, à mi-chemin dans une oscillation. Ça veut dire que je vais simplement utiliser cette transition. Je ne change pas son mouvement, il ne bougeait pas, il ne bougera pas. Simplement, j'allume un laser à cette fréquence qui correspond au noir ici et je fais un pulse pi sur 2. Alors, je fais un pulse pi sur 2. Je vais effacer ici pour qu'on voit bien la séquence. J'étais au départ dans cet état-là. C'est cet ion-là que je vais mettre dans une superposition. Donc, je vais simplement être... Je vais avoir l'ion de gauche dans cet état-là. Tensoriel, l'ion de droite, je ne lui ai rien fait. Et je n'ai pas changé le mouvement. Donc ça s'écrit bien. Une fois que j'ai distribué, ça me fait bien les deux ions qui pointent vers le bas et zéro, pas de mouvement, plus le ion de gauche qui pointe vers le haut, le ion de droite qui pointe vers le bas et toujours pas de mouvement. Étape suivante. Alors ici, je marque toujours l'état, vous allez voir, je mets l'état d'où on part et on va faire l'étape d'après. L'étape d'après, c'est si mon ion de gauche pointe vers le haut, je vais le faire repointer vers le bas, mais en le mettant en mouvement. Donc je veux faire passer mon état pointe vers le haut, pas de mouvement, vers pointe vers le bas, un mouvement. C'est cette transition-là. Donc j'allume mon laser rouge. J'allume mon laser rouge et eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, cette partie-là, là, qui était pour mon ion de gauche, cette partie-là, eh bien, elle va devenir simplement, cette fois-ci, j'ai créé un quantum de mouvement. Donc, j'ai mis mon système en mouvement. Donc, j'obtiens cet état-là. Et cet état-là, quand je l'écris avec le reste de l'état, pardon, l'autre terme, c'était pointe vers le bas, sur racine de 2, pas de mouvement. Bah, ça reste pointe vers le bas, sur racine de 2, pas de mouvement. Et donc, finalement, mon état final, la somme des deux, ça me donne bien... Ça me donne mes deux ions qui pointent vers le bas, mais qui sont dans un état maintenant superposé entre pas de mouvement et un mouvement, 0 plus 1 sur 2. Alors en fait, si je fais un petit dessin, j'ai créé une superposition quantique de mes deux ions qui pointent vers le bas, qui bougent et qui ne bougent pas. D'accord ? Et donc j'ai transféré l'information qui était sur mon qubit 1, qui portait l'information up plus down sur racine de 2, je l'ai transféré vers les ions, vers le mouvement. C'est maintenant l'information quantique est dans le mouvement mécanique des ions. C'est magnifique, hein ? On est en train de transférer l'information d'un système électronique à un système de déplacement mécanique. Ok, troisième étape. Je pars de là, j'ai cet état-là. Alors, cette étape-là, elle est un petit peu compliquée. Il y a écrit, on doit mettre l'ion 2 s'il est dans l'état up. C'était l'inverse. S'il était dans l'état down, ici, ça, c'est down. Et en mouvement, je dois le retourner. Donc, c'est cet ion-là, là, l'ion 2 qui bouge, je dois le mettre dans l'autre état. Alors là, en fait, je peux regarder mes transitions. Il n'y en a aucune qui permet de faire ça. Parce qu'en fait, je veux le retourner sans changer son mouvement. Donc, il faudrait que j'allume mon laser noir, ici. Mais si je fais ça, c'est aussi résonnant avec cet état-là. Et en fait, ça veut dire que je le retourne dans tous les cas, qu'il soit dans l'état up ou dans l'état down. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étape en trois impulsions et un état auxiliaire. Donc, je vous ai épargné ça, c'est un calcul qu'on peut faire. On va utiliser un état excité et on va faire trois impulsions. Et on va arriver au résultat qui va donner l'état final où j'ai finalement maintenant le cas où, s'il était en mouvement... Ici, c'était le l'ion de droite en mouvement, va être maintenant, l'ion de droite en mouvement qui pointait vers le bas, il va être pointé vers le haut. Et donc je vais avoir pointé vers le bas, 0 qui ne change pas, et pointé vers le bas, 1 qui va devenir pointé vers le haut, 1. Et donc on a cet état-là. Ça ressemble à ça. J'ai maintenant une superposition quantique, non seulement entre le mouvement, mais aussi entre les différents degrés de liberté interne. Et puis la dernière étape est très simple. Cette fois-ci, je retourne sur le qubit de gauche, l'ion 1, et s'il était en mouvement et qu'il pointe vers le bas, eh bien je le retourne. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller de 1 en mouvement vers 1 qui pointe vers le haut et qui ne bouge pas. Donc j'ai fait une erreur. Cette transition-là, le 1 qui pointe vers le bas et qui est en mouvement, je le ramène ici. C'est à nouveau, j'ai fait une erreur, je corrigerai. C'est la transition rouge ici qu'on va utiliser. Et une fois qu'on fait ça, eh bien, en fait, si on regarde la transformation ici à partir de cet état-là et qu'on fait le calcul, eh bien, on arrive à cette situation où on a enlevé le mouvement, on l'a repris, le mouvement mécanique. Mais cette fois-ci, on a une superposition entre up, down, down plus up, up. Donc, on a créé un état de Bell entre mes deux ions piégés. Vous voyez que j'ai fait une porte pour intriquer les deux ions, quelle que soit la distance qui les sépare. Voilà. Alors, vous avez ici un exemple de porte logique. Ce n'est plus celle qu'il a utilisée actuellement. Il y a des nouvelles portes qui ont été créées depuis, qui sont plus compliquées à raconter. Donc, je continue à vous raconter celle-là parce que l'autre, elles sont plus compliquées que celle-là. Alors, l'architecture finale des ions piégés, des ordinateurs à base d'ions piégés, il faut piéger les ions sous une chaîne comme cela. Et puis, on a ces lasers bleus, rouges, qui permettent d'intriquer les ions par des séquences d'impulsions comme cela, qui permettent de faire des intrications entre n'importe quel ion et n'importe quel autre. Regardons maintenant ce qui se passe pour les ordinateurs neutres. Les ordinateurs neutres qui sont piégés par des pinces optiques dans des réseaux. Cette fois-ci, on n'a pas ce mouvement mécanique qui va être utilisé pour faire des portes. On va utiliser les états de Rydberg que j'ai décrits avant, dans lesquels l'électron va explorer en fait une distance très loin du noyau et va créer en fait une modification de l'énergie de l'atome voisin. Alors, je vais vous montrer ici un diagramme qui a été publié dans cette revue, où on montre que en fait, une fois qu'un atome, un des deux atomes ici, par exemple l'atome de gauche, est placé dans l'état de Rydberg, l'électron dans cet état-là explore très loin du noyau. Et ainsi, en fait, va changer l'énergie effective des ions, des atomes qui sont autour de lui. Et à partir de ça, on va pouvoir faire une porte CNOT, une porte CZ que je vais vous montrer maintenant. Alors, je reviens un slide en arrière. Je vais coder l'information entre deux états horloge en bas, ici. Et je vais utiliser les états de Rydberg, ici, excités, pour faire la porte logique. Alors, petit schéma, on se rappelle qu'une porte CZ, on l'avait vu la semaine dernière, c'est une porte qui, sur trois états, ne fait rien et sur le dernier, va changer de signe. Alors, on regarde la séquence. Donc, on va, ici, les deux états du bas, en vert et en bleu, c'est les deux états de mon qubit. Et j'allume un laser, je vais faire une séquence de trois impulsions. Un laser vert qui va de cet état-là à gauche, sur l'atome de gauche, entre l'état vert, le qubit 1, et l'état de Rydberg. Ensuite, on va aller sur l'atome d'à côté et on va faire un pulse de pi, donc on monte et on redescend à la même fréquence. Et enfin, on refait un pulse pi pour ramener de l'état du haut vers l'état du bas, l'atome de gauche. Alors, vous voyez, le premier cas, quand mes deux atomes sont dans l'état 0,0, ben, il ne se passe rien parce que mes lasers sont tous complètement désaccordés des transitions qui m'intéressent. Donc, on ne fait rien à tous les systèmes, à l'état. 0,0 devient 0,0. Maintenant, si l'atome de gauche est toujours dans l'état 0, mais l'atome de droite est dans l'état 1, que se passe-t-il ? Ben, l'atome de gauche, on ne lui fait rien avec notre laser, il ne se passe rien. Par contre, l'atome de droite, il est dans l'état où je vais pouvoir l'emmener vers l'état de Rydberg et revenir. Mais quand je fais un aller-retour, je fais un pulse 2π, en fait, ce que je fais, c'est que je vais créer un changement de signe. Je vais faire un signe moins ici. Et puis la dernière étape, ma dernière séquence, ben, il ne se passe rien parce que je n'avais pas emmené mon atome en haut, donc il ne revient pas en bas, il ne se passe rien. Donc le résultat net, c'est que j'ai changé de signe de mon qubit. Moins 0,1 devient moins 0,1. Troisième état, l'état 1,0. Cette fois, c'est l'état de gauche qui est dans l'état 1, l'état de droite qui est dans l'état 0. Ah, cette fois-ci, mon premier pulse va fonctionner. Il va amener mon atome de gauche dans l'état de Rydberg. En amenant l'atome de gauche dans l'état de Rydberg, je modifie l'énergie de l'atome de droite, ici. Donc c'est pour ça que d'un seul coup, je ne suis plus là résonnant, mais je suis décalé. Ce qui fait que mon pulse de pi ici sur l'atome de droite ne fait rien. Et puis, le troisième pulse me ramène vers le bas. Donc en fait, à droite, il ne s'est rien passé parce que j'ai désaccordé la résonance. Donc mon atome n'a rien vu. Par contre, l'atome de gauche, je l'ai emmené en haut et je suis revenu. Donc j'ai fait un pulse de pi effectif. Ça fait un signe moins aussi. Dernier cas, mes deux atomes sont dans l'état 1,1. L'atome de droite, toujours, passe dans l'état de Rydberg. Du coup, désaccorde la transition pour l'atome de droite qui va, encore une fois, ne rien subir. La fréquence est désaccordée. Et finalement, l'atome de gauche, je le ramène du haut vers le bas. Donc, j'aurais fait au total un pulse 2π sur l'atome de gauche qui me fait un signe moins là. Alors, vous voyez que la matrice que je vous décris là, en fait, c'est moins 1 fois la matrice de la porte CZ que je vous ai présentée. En fait, on change de signe tout le temps sauf pour un état. Donc, c'est la même porte, simplement avec un signe moins. Donc, vous voyez comment on peut ici faire une porte entre deux atomes de Rydberg qui sont distants de quelques microns en utilisant ce blocage de Rydberg. J'en suis arrivée au bout. Nous avons tous les ingrédients pour faire nos ordinateurs quantiques et dans les 10 minutes qui restent, je vais essayer de vous montrer des applications, des premières réalisations. Un dernier mot quand même. Est-ce qu'il n'y a pas de décohérence dans ce système ? Eh bien, si les atomes étaient parfaitement isolés dans le vide sans environnement, ils seraient insensibles à tout ce qui se passe autour. Mais en réalité, forcément, comme tout système physique avec des charges, des électrons, ils sont sensibles au champ magnétique. Donc c'est pour ça qu'on a pris des qubits hyper fins, pour que ce soit une dépendance, une transition horloge. Mais on a quand même une dépendance en champ magnétique qui, si votre champ magnétique est fluctuant, va modifier les niveaux d'énergie. Vous avez aussi des fluctuations dans les pièges optiques. Les atomes sont piégés dans les pièges optiques, ont quand même une température non nulle, et donc ils vont se déplacer un petit peu dans un piège qui est basé sur la lumière. Et la lumière déplace les niveaux d'énergie aussi. Donc vous avez un petit peu de déphasage qui vient de cet effet Stark optique. Dans les atomes de Rydberg, c'est pour ça qu'on les utilise plutôt pour encoder la formation dans l'état du bas que dans l'état du haut, le temps de vie excité a un temps de vie pas très long, et donc vous avez un temps de vie fini, donc décohérence par perte de qubits. Et dans les états de Rydberg également, sur les états excités, vous avez une très forte sensibilité au champ électrique, donc de la même façon, il faut ne pas y rester trop longtemps pour ne pas être trop sensible à du champ électrique fluctuant non contrôlé. Voilà. Et vous avez, bien sûr, pour tous les systèmes optiques, vous avez le bruit de laser qui, à la fin, sera la limite ultime de votre contrôle des portes logiques, etc. Ça, c'est vrai pour tous les qubits. Alors, dans les 10 dernières minutes, je vais essayer de vous montrer un petit peu les réalisations récentes à partir de tous ces ingrédients que nous avons mis ensemble. Et je vais commencer par le calcul analogique, la simulation quantique, qui est réalisée en mettant ces atomes dans des réseaux avec des pinces optiques, comme je vous ai montré. Typiquement, avec ce genre de système, il va être possible de simuler ce qu'on appelle des problèmes de Ising. Alors, en physique, des problèmes de Ising, c'est des systèmes où on a mis des particules qui portent des spins, avec un spin and miss, spin up ou spin down, et sur une structure de réseau. Ça peut être, par exemple, il faut imaginer de la matière, où des atomes sont bien organisés les uns des autres, et les spins vont interagir les uns avec les autres. Vous avez un grand nombre de spins comme ça qui interagissent ensemble. C'est un système très très difficile à calculer d'un point de vue, à modéliser de manière classique. Et l'Hamiltonien équivalent donné pour ces simulateurs est celui-là. Vous avez un terme qui est en sigma x et des termes qui viennent ici, n, qui disent le nombre de particules que vous avez dans l'état de Rydberg. Alors, comment est-ce que ça marche ? Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense qu'en plus, Antoine reviendra dessus après. On va en fait faire correspondre les états de spin-down et spin-up à l'état fondamental et l'état de Rydberg des atomes. Ça va définir les deux états qui vont permettre de modéliser. Ensuite, si je vous réécris, reprends les équations de bloc optique que nous avions vues ensemble, quand vous appliquez un laser sur les transitions entre l'état fondamental et l'état excité, nous avions vu que c'était, ça s'écrivait comme cela. Vous avez ici simplement les niveaux d'énergie entre les deux niveaux, qui se décrivent par une matrice sigma z. Et puis ici, vous avez simplement le couplage laser. En se mettant dans le référentiel tournant, ça c'est ce qu'on avait fait pour la RMN, le même formalisme montre que du coup, on a en fait un Hamiltonien qui a comme cela deux termes. Vous commencez à voir apparaître les deux termes ici. Hein, on va avoir le terme en sigma x qui vient du pompage laser, et puis le delta ici qui vient du désaccord entre la fréquence laser et la fréquence de la transition. Et on va définir n ici comme en fait l'opérateur RR. Donc n en fait c'est 1 plus sigma z sur 2. Ça vous permet de faire un mapping entre cet Hamiltonien là et l'Hamiltonien d'Ising. Et enfin le dernier terme, eh bien, c'est le terme d'interaction entre les états de Rydberg à deux distances, donc c'est pour ça que ça dépend des états n, il faut que les deux atomes soient dans l'état de Rydberg, l'état où ils sont très sensibles, où l'électron est très délocalisé loin du noyau, et les termes d'interaction sont des termes en 1 sur R6, la distance entre les deux atomes. Alors, dans le séminaire, vous allez avoir beaucoup d'exemples d'applications de ces systèmes pour étudier plein de systèmes physiques très intéressants, donc je pas en dire plus, je veux juste vous montrer qu'en fait, ce genre de modèle d'Ising qui apparaissent comme un problème de physique pure, en fait, correspondent à des problèmes d'optimisation très classiques qu'on appelle QBO, Quadratic Unconstrained Binary Optimization, où on cherche dans ces modèles-là à minimiser une fonction de variable binaire. Donc on parle de minimiser des fonctions avec des variables qui prennent valeur 0 ou 1, simplement, qui ont des termes seulement quadratiques, et on appelle ça unconstrained parce qu'on n'a pas mis de contraintes sur les paramètres. En fait, on va mettre des contraintes en encodant des pénalités. Alors, je vais vous donner un exemple, un problème pas très intéressant, mais qui correspond à d'autres problèmes qui sont très concrets. Si je prends un graphe et je dis que j'ai deux couleurs pour mettre une couleur sur chaque nœud, et que je ne dois pas avoir deux nœuds adjacents, donc qui sont reliés, avec la même couleur. Vous voyez que j'ai rapidement un problème dès que la structure de graphe est un petit peu compliquée. Parce qu'ici, je respecte la règle, ici, je respecte la règle, mais évidemment, là, je ne la respecte pas, là, je la respecte, mais là, je ne la respecte plus, etc. Comment résoudre ce type de problème ? Eh bien, on va pouvoir créer une fonction, C, ici. On va dire que X va valoir 0 si je mets la couleur orange, 1 si c'est la couleur bleue, et je vais prendre des paramètres Q, I, J qui vont dire que ça vaut 1 s'ils sont connectés, et 0 sinon. Et donc, ça me donne une fonction que je vais vouloir minimiser, qui va être tous les termes QIJ, XI, IJ. C'est-à-dire qu'ici, si tous les deux sont bleus, valent 1, eh bien, je vais avoir une fonction de coût parce que je vais faire apparaître le terme QIJ s'ils sont connectés. Et pour la couleur orange, ben, je vais simplement mettre la même fonction, mettre F1-XI à 1-IJ. Et donc, vous voyez que ce petit calcul-là, ça me positionne dans un problème d'optimisation qui est celui-là, qui ressemble furieusement à celui-là. En fait, il suffit de faire une petite modification. En fait, moi, j'ai un spin qui vaut plus 1,5 ou moins 1,5 dans mon Hamiltonien d'Ising. Je veux faire passer ça de 0 à 1. Donc, je vais simplement faire du 1 plus SI sur 2. Et donc, ça fait soit le spin va moins 1, soit il vaut plus 1. Et ça va me donner exactement les mêmes valeurs. Eh bien, ce genre de problème, c'est des problèmes d'optimisation qu'on trouve dans plein de systèmes. Alors, si vous voulez faire un emploi du temps pour des étudiants qui doivent choisir deux cours et qu'il ne doit pas y avoir de chevauchement des cours, etc., bah, c'est typiquement ce genre de problème d'optimisation que vous allez devoir faire. En finance, en logistique, donc en planning, faire des emplois du temps, optimisation de réseau pour les technologies de l'information, etc., etc. Donc, pour ça, pour montrer qu'au-delà des problèmes physiques qu'on peut modéliser avec ces systèmes, on peut aussi faire correspondre un problème très concret d'industrie, d'application à une simulation quantique. Dans les ordinateurs quantiques à base d'atomes, il y a énormément d'efforts également pour faire des portes logiques qui ont été démontrées notamment dans la start-up Quera, dans le groupe du professeur Looking aux États-Unis. Je vous montre ici une publication d'il y a 3 ans où ils font des portes CZ comme je vous ai montré. Il faut pour cela approcher les atomes l'un de l'autre, et donc ça pose une limitation, parce qu'il faut que les atomes soient prêts. Donc en fait, on a l'impression qu'on peut faire des portes que entre plus proches voisins, ce qui pose des problèmes pour faire des calculs universels ou d'avoir une flexibilité dans le calcul. Ce qu'ils ont montré dans cet article, c'est leur capacité à déplacer les atomes pour les rapprocher, les intriquer, puis ensuite les éloigner à nouveau. Donc ici, par exemple, ils ont intriqué deux atomes, et puis après, ils les ont déplacés, et ils ont montré qu'ils étaient encore intriqués à 100 microns d'écart. Ils ont réalisé des choses qui vous doivent vous rappeler des choses qu'on a vues la semaine dernière, des états où il y a, je crois qu'il y en a 12 atomes qui sont intriqués en chaîne. Ici, c'est les états de cluster à une dimension que nous avions décrit la semaine dernière, qui sont des ressources importantes pour le calcul quantique photonique pour la correction d'erreurs. Ce sont les mêmes états qui sont intéressants pour la correction d'erreurs ici avec les atomes. Alors, pas seulement une chaîne linéaire, vous voyez, ils ont intriqué deux par deux, puis ensuite ils ont fait le lien entre les deux, donc ils ont fait les liens ici. Progressivement, dans le même article, ils montrent des structures à deux dimensions où ils intriquent, alors j'ai oublié le nombre d'atomes, mais une bonne dizaine d'atomes, dans des états particuliers qui les amènent vers la correction d'erreurs, l'identification et la correction d'erreurs. Et il y a 18 mois, il y a 2 ans bientôt, ils ont montré cet ordinateur, ce travail très impressionnant où ils ont réalisé ces petits états qui constituent des qubits logiques, ils les ont mis dans un certain endroit, ici, où ils les stockent, et puis ensuite, ils les amènent ici pour faire des opérations, cette fois-ci, entre qubits logiques, avec leurs ordinateurs. Donc, ils s'approchent vraiment de l'ordinateur avec correction d'erreur. Ensuite, la barre de potentiel, si je puis me permettre, les défis qu'il reste à résoudre pour vraiment passer à du calcul corrigé restent encore très importants. Mais c'est vraiment, une réalisation marquante pour avancer vers des ordinateurs corrigés. Si je passe du côté des ions, alors j'ai sélectionné de manière arbitraire, il se passe énormément de choses, hein, donc j'ai sélectionné de manière arbitraire des résultats récents en faisant un choix qui est que de vous montrer que les ions sont la plateforme qui donne les meilleures fidélités dans les états 1 à 2 qubits. C'est vraiment le système la plus isolée du bruit qui soit. Vous voyez ici un article de l'an dernier où il montre des erreurs à 1 qubit de l'ordre de 10-7. Voilà, ils mettent les autres systèmes sur la même échelle. Hein. Vous voyez qu'ils n'ont pas mis tout le monde d'ailleurs et ils ont des ordres de grandeur d'avance sur ça. Alors on rentre dans le domaine de la métrologie ici hein, et ils sont capables ici d'estimer la part de chaque phénomène à l'erreur qu'il reste. Vous voyez, c'est vraiment très impressionnant. Autre résultat que j'ai trouvé intéressant, tous les calculs que je vous ai montrés, on a tendance à mettre les ions dans l'état fondamental pour faire les portes logiques, puisqu'on utilise le mouvement pour intriquer. Ils ont montré dans cet article qu'il y a une astuce qui a été trouvée pour faire des portes logiques sans complètement refroidir le système. C'est-à-dire qu'on ne met pas on l'empêche pas de bouger complètement. Ici, vous voyez les portes logiques à 2 qubits avec un nombre moyen de quantum d'énergie qui est de 4, 6, 8, etc. C'est-à-dire qu'il peut limiter les étapes de refroidissement qui ralentissent le fonctionnement des processeurs, parce que ça prend du temps d'emmener les ions dans l'état fondamental, et ils ont tendance à se réchauffer en plus assez rapidement. Donc il faut les ramener dans l'état fondamental régulièrement. Dernière réalisation très impressionnante ici, cette fois-ci de la société Quantinuum. Alors, c'est un ordinateur quantique à base d'ions où ils ont résolu un problème très important des ions qui est le fait que pour passer à un grand nombre d'ions, ils ont une difficulté. Alors, excusez-moi, je vais revenir en arrière un instant. J'aurais voulu le remettre là, puis j'ai oublié. Ici. Quand je vous ai montré comment on contrôlait les niveaux d'énergie, je vous ai montré ces spectres en fréquence qui définissent la fréquence rouge, la fréquence bleue que j'utilise pour manipuler les ions. Et je vous ai montré ici, ça, c'est toutes les modes d'excitation mécanique d'une chaîne avec 3 ions. Vous imaginez que si je mets 50 ions, je vais avoir un nombre de mouvements possibles et un nombre de fréquences de résonance qui devient gigantesque. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on remplit l'espace des fréquences avec toutes ces transitions et on n'est plus très précis. Quand on excite une fréquence, on va en fait exciter aussi un autre mouvement. Et donc, il y a une difficulté pour passer à l'échelle, c'est ce remplissage de l'espace des phases des fréquences, si vous voulez, qui empêche de passer à l'échelle. Et comment, dans cette publication récente, la société Quantinuum a résolu ce problème avec une certaine solution qui est très jolie, qui est ici. Eh bien, en fait, ils définissent maintenant 3 zones pour leur ordinateur. Ils vont stocker les ions ici dans un anneau Et ils vont les emmener ici sur un piège linéaire, ils vont les déplacer, et c'est là qu'ils vont faire les portes logiques. Donc ils n'auront jamais un grand nombre d'ions dans la zone où ils vont faire les portes logiques, et quand ils les auront mis dans des états intriqués, eh bien, ils les remettront dans le stockage ou ils les mettront ici pour continuer à faire les portes logiques avec les autres ions. Et donc c'est ça qu'ils ont fait. Vous voyez ici qu'ils font des portes à 1 qubit, à 2 qubits, etc., etc., en déplaçant les ions. C'est très joli, on voit ces espèces de petites billes là, qui circulent, et puis ils amènent ici les ions dans la zone qui les intéresse pour intriquer. Alors c'est très beau, ça marche. Il y a un coût important, c'est le temps de transport. Pour emmener les petits ions d'un point à l'autre, il faut des millisecondes, des dizaines de millisecondes. Donc, vous voyez, le temps de transport, quand vous voulez faire une couche, one layer, c'est-à-dire déplacer les ions, faire de l'intrication et ensuite faire le calcul, transporter, refroidir et faire le calcul, vous voyez que vous avez un temps cumulé qui devient très important. Et donc, quand on regarde le temps que ça prend pour chaque couche, en fonction du nombre de qubits, en fait, il faut amener les qubits vers la sortie pour les emmener dans la porte de sortie, etc., vous voyez que vous avez ce temps de manipulation qui croît. Et donc, cette réalisation est extrêmement impressionnante et vraiment une première mondiale qui résout ce problème du fait qu'on peut augmenter le nombre d'ions à un coût très important qui est le temps de mesure, qui fait qu'en pratique, ils ne peuvent pas faire des calculs avec un très grand nombre d'ions parce que ça prend beaucoup de temps pour le faire. Et nous avions vu ensemble que l'horloge, c'est un paramètre clé pour avoir une réponse parce que vous devez faire cette étape un grand nombre de fois pour avoir une mesure statistique de votre système à la fin. Pour conclure, nous verrons... donc je m'arrête là sur les ordinateurs. En fait, je vais faire une connexion avec les deux prochains cours. La semaine prochaine, nous étudierons le rôle des vibrations dans les technologies quantiques. Et j'estime qu'aujourd'hui, je vous ai fait une belle démonstration avec les vibrations, que ce ne sont pas simplement une source de décohérence. Alors nous allons voir la semaine prochaine que la vibration peut constituer une décohérence pour les systèmes, mais peut également devenir une ressource. Aujourd'hui, nous avons vu que les vibrations des ions dans un ordinateur à base d'ions, c'est vraiment ce qui permet d'emmener l'intrication, de médier l'intrication. Et on va maintenant vers des systèmes macroscopiques, qu'on appelle des systèmes optomécaniques, qui permettent de réaliser le même genre d'expérience. Donc ça sera la semaine prochaine. Et la semaine d'après, eh bien, nous allons en fait adresser un petit peu le domaine des réseaux quantiques, mais avec un prisme qui vient justement de ce constat que pour les ordinateurs quantiques à base d'ions, mais en fait tous les autres aussi, la taille du système va être limitée par des considérations très pratiques comme celles que je viens d'utiliser, de vous montrer aujourd'hui, et que pour passer à l'échelle, on va en fait prendre plusieurs processeurs et les connecter avec des photons, et on va intriquer le processeur avec un photon qui ira vers un autre processeur. Et donc c'est la deuxième approche qui est explorée pour passer à l'échelle sur les ordinateurs quantiques à base d'ions. Et notre invité dans deux semaines, professeur Tracy Northrup, a démontré ces interfaces entre un ion et les photons pour faire ces expériences, pour passer cette étape pour les ordinateurs à base d'ions. Et la semaine prochaine, nous aurons le séminaire du professeur Marcus Aspelmayer, qui est un leader du domaine de contrôler ces systèmes mécaniques dans le domaine quantique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et surtout, vous avez, la deuxième partie de l'histoire avec le séminaire du professeur Antoine Brouwez sur la simulation quantique ensuite. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.